Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'avais une pancarte tout à l'heure, quand on rentre, ici c'est le chaudron, quand je suis sorti j'ai écrit ici c'est le potager.
Je suis sur le bûcher moi, le premier, maintenant j'ai brûlé. On appelle Pierre Drossi sur le bûcher, j'entends beaucoup de bêtises, faut faire très attention à ce qu'on dit.
Chaque sélectionneur aime bien avoir un ou deux jokers, là il y a des places à prendre et puis il y a aussi une émulsion.
Ça va nous amener à monter d'un cran et donc amener certains joueurs à également progresser par rapport à la conscientisation de confiance sur leur potentiel.
Oh la vache. Je peux aller chercher un café.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bravo à Daniel Torres pour ce nouveau générique de l'After. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC. L'After, la seule émission en direct 7 jours sur 7 à la radio. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Casting du soir. Bonsoir Lionel Charbonnier.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Bonsoir Kevin Diaz.
Bonsoir à tous.
À venir, le débrief de la victoire. Oui, la victoire du FC Metz, la Lorraine et Grenat. La Lorraine le restera. 2-1 face à Lens. On vous attend nombreux, supporters messins, ambiance de qualification pour une finale de Coupe de France à Saint-Symphorien. On va en parler. Est-ce que Metz peut aller arracher le maintien inespéré il y a encore quelques jours, quelques heures presque? On va en débattre avec vous au 32-16. Lens n'avance plus en Ligue 1. Quatrième match sans victoire pour les Lensois. Quelles conséquences pour cette fin de saison? Là aussi, on vous attend, supporters du Racing Club de Lens. Pourquoi ça ne marche plus dans l'effectif de Franck Haise? Ce soir également, tiens, un débat qu'a ouvert Antoine Camboire, entraîneur du FC Nantes aujourd'hui, qui s'insurge contre le report de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end. Il n'y en aura que 6. Pour préserver les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, en l'occurrence Paris, Marseille et Lille. Antoine Camboire ne comprend pas pourquoi on a reporté ces 3 matchs et que ça peut tronquer, selon lui, la fin de saison. Et puis justement, débat ce soir avant la semaine européenne, Paris, Marseille ou Lille, qui a le plus de chances de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe? 32-16 pour nous appeler, supporters messins, supporters lensois, marseillais, lillois, n'hésitez pas à nous appeler également, parisiens également. Et puis également, je vous rappelle qu'on est sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, pour vous abonner, pour commenter dans le chat qui est ouvert. Merci aux modérateurs présents ce soir. C'est parti, jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Lionel.
Bah écoute, mon premier point sera messin, tout simplement parce que je pense que c'est une victoire méritée. Alors oui, c'était pas un grand football, oui, c'était pas les puristes, les footix vont dire que voilà, ils ne méritent pas leur victoire. Moi, je trouve que Metz a mérité sa victoire avec d'autres valeurs, comme quoi tu peux gagner avec d'autres valeurs. On va sûrement en parler tout à l'heure. Et ensuite, je suis déçu pour mon deuxième point, des Lensois qui perdent leur football. Là, ça fait 8 buts encaissés en 4 matchs, c'est beaucoup trop. Offensivement, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas d'idée. Je les sens fatigués, que ce soit sur le plan physique mais aussi mental. Et puis mon troisième point, oui, tu parlais que la victoire messine était comme une qualif en Coupe de France, mais que ce soit Metz, que ce soit Lorient, que ce soit Nantes, toutes ces équipes là qui se battent, bah aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils ont 6 finales à faire. Ah oui. 6 finales de Coupe de France à faire.
Kevin, tes 3 points.
Le premier point, c'est bien sûr la victoire de Metz, qui était inespérée, mais qui a fait plutôt un bon match. C'est vrai qu'alors ils ont souffert, ils ont des lacunes, hein, sinon ils ne seraient pas positionnés à cette position. Et ce sera d'ailleurs mon deuxième point. Mais quand même, s'ils arrivent à se maintenir avec un Oukidia qui est capable de faire d'énormes erreurs comme aujourd'hui, ce serait quand même du rarement vu. Et en 3, bah, c'est je ne vais même pas parler du Racing Club de Lens, parce que j'ai surtout envie de parler des clubs français en Coupe d'Europe. On savait que ça allait être difficile, que ça allait, c'est peut-être pas des tirages faciles. Mais je m'attendais pas à avoir 3 défaites quand même.
C'est pas facile, c'était pas les plus compliqués non plus les tirages pourtant.
Ouais, non, pour
mais Lille, tout le monde est en vie.
Voilà, pour Lille et pour le PSG, c'était pas facile quand même.
Tout le monde est en vie. Oui, enfin, quand tu vois les matchs du mardi soir, le Real City, le Arsenal Bayern, et que tu vois les matchs du mercredi soir, il y a un écart de niveau, j'ai l'impression quand même.
Ouais, mais ça, on le savait avant le tirage.
Oui, bah oui. Voilà. Donc ça aurait pu être un tirage plus difficile, c'est ce que je dis. Bon, alors comment on va faire? On va commencer par Lens, parce que il y a beaucoup d'appels de supporters lensois au 32-16. Donc on va commencer par la colère, l'incompréhension des Lensois. Je vais accueillir Jérôme au 32-16. Salut Jérôme.
Salut, bonsoir Licky, bonsoir Lionel, bonsoir Kevin.
Heureux de t'accueillir Jérôme. Je rappelle, hein, donc ton équipe ne gagne plus depuis 4 journées déjà. Défaite à Nice, face à Nice 3-1. Défaite à Lille dans le derby 2-1. Nul contre le Havre à Bollaert. Et donc défaite à Metz 2-1 ce soir.
Huit buts encaissés en 4 matchs.
Exactement. 8 buts encaissés en 4 matchs. C'est pas l'Ansois. Comment tu vis cette soirée et ce match-là, et comment tu, quel regard tu poses sur la prestation du Racing Club de Lens, Jérôme?
Alors, moi, je pense que c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Je pense que le discours de Franck Haise a du mal à passer. Je pense que le jeu de Lens est trop stéréotypé. Malheureusement, on passe beaucoup sur les ailes du côté droit avec Frankowski et Sotoka et pas assez du côté gauche avec Machado et voilà. Et Pereira da Costa, malheureusement, il a fait quelques bons matchs, mais ça il redescend de niveau. Elivoye, malheureusement, n'est pas encore tout à fait compatible avec le jeu lensois. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et je pense même que certains joueurs de Lens ont déjà la tête ailleurs, tout simplement. Et honnêtement, quand je vois par exemple le jeu des Lyonnais, quand je vois certains jeux, par exemple le jeu des Monégasques, des Lillois, ils sont à leur place en Coupe d'Europe. Vu le niveau de ce soir, je ne pense pas que Lens est capable d'aller chercher l'Europe malheureusement cette saison.
Bon, fin d'un cycle, est-ce que c'est un peu radical, un peu sévère, que dit Jérôme là?
Je dirais pas jusqu'à la fin d'un cycle, mais je dirais pas la fin d'un cycle personnellement, mais en tout cas, on a connu Lens avec des difficultés à chaque fois que les Lensois ont dû jouer contre des équipes, et ça date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, c'était pareil, lorsque Lens survolait le championnat parce que personne n'attendait Lens avec un tel niveau de jeu, et Lens évolue en contre-attaque, et ça se passe c'est très bien. Et puis quand tout d'un coup les équipes se sont mis à jouer plus bas, beaucoup plus regroupées, il a fallu que Lens réinvente son football face à des défenses des blocs très regroupés, et Lens n'y arrivait pas. Déjà ce soir ça a été le cas aussi. Moi, ce que je reprocherais ce soir aux Lensois, surtout, je pense qu'ils ont très bien débuté. Ils ont marqué, penalty normal, il y a rien à dire sur le penalty, et par contre à partir de là, j'ai l'impression qu'ils ont été suffisants. Et ça, je n'accepte pas. Pour moi, c'est cette attitude qui me gêne.
C'est pas l'ansois.
C'est l'ansois suffisant. Quoi, ouais. C'est la première fois dans ma bouche que je mets l'ansois suffisant. C'est deux mots qui suivent. Et quelque part, ça me dérange.
On a un problème aussi de d'efficacité défensive et offensive. Enfin, je suis désolé, mais Elivoye, c'est un garçon que j'adore beaucoup. Mais il est tout seul devant, je veux dire, derrière lui, il y a qui pour un vrai numéro 9?
Oui, c'est vrai que dans la finition, t'as raison. Dans la finition, mais ça a tout le temps été contre les équipes regroupées. Le dernier geste dans les petits espaces, j'ai toujours vu les attaquants lensois en difficulté dans les petits espaces pour faire le geste de Mikotadze. Voilà, le premier but de Mikotadze, il y a personne pour le faire à Lens aujourd'hui.
Le problème cette saison avec le Racing Club de Lens, c'est qu'en fait on les compare avec l'an dernier, et ça c'est
par rapport à l'année dernière.
Comment?
On en fait trop par rapport à l'année dernière. Je trouve que on n'a pas encore du mal à passer. Enfin, le départ de Seco, on l'a pas oublié. Openda l'a pas remplacé comme il faudrait.
Exact.
Et pourtant, Dieu sait qu'on a mis 35 millions sur Elivoye, mais.
Oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que j'allais dire. On est forcé de comparer avec l'an dernier. Mais l'an dernier, c'était une année exceptionnelle. Où, d'ailleurs, moi, je trouve que vous étiez meilleur il y a 2 ans finalement dans le jeu. L'année dernière, vous avez été très régulier, notamment défensivement, mais offensivement, il y avait toujours un éclair. Souvent, ça a été Openda en deuxième partie de saison. En première partie de saison, ça a souvent été Seko Fofana qui a été arraché. Je sais plus quel match à la dernière minute, une, deux fois.
Un paquet, plus de deux fois.
Je crois à Monaco, par exemple. Mais c'est des matchs où, l'année dernière, vous étiez, je me rappelle très bien du match au Vélodrome où il y a une frappe de 30 mètres contrée par Balerdi qui lope Paul Lopez. Donc en fait, ça a été plein de matchs comme ça, et c'est un peu le caractère très difficile à analyser dans le football, où il y a une forme d'irrationnel qui, sur 2-3 éléments, arrive, parce que 2-3 mecs sont au-dessus de leur niveau, arrive à faire sublimer une équipe, arrive à faire tourner quelques résultats. Mais cette saison, ce match-là, C'est le genre de match où, bien sûr, je veux bien entendre qu'il y a un peu de suffisance. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, je suis désolé, t'as une bonne équipe, mais t'as un milieu, El Ainaoui Diouf. Deux jeunes joueurs, c'est des joueurs qui découvrent le très haut niveau, la Ligue 1, les exigences de finir européen chaque saison. Ou en tout cas, cette saison, t'as Pereira da Costa qui est très jeune. T'as des joueurs qui, l'an dernier, marchaient sur l'eau, comme par exemple les trois défenseurs, qui aujourd'hui sont capables de faire une erreur. Mmh. Et l'an dernier, ils faisaient jamais d'erreur. Mais l'anomalie, c'était l'an dernier.
Et justement, j'ai une question à vous poser, messieurs, par rapport à ça. Est-ce que, du coup, le ressort ne s'est pas cassé après l'élimination en Europa League? Parce que tout le monde voyait passer contre Fribourg. D'ailleurs, enfin, je pense mais qu'on fait plutôt un match cohérent contre Fribourg.
Faut pas,
Fribourg,
faut pas oublier le début de saison, quand même, cher ami. Le début de saison, il est difficile.
On est dernier là, au bout de la cinquième journée, ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que le ressort ne se casse pas, justement, parce qu'il n'y a plus d'objectifs vraiment à
T'as raison, il y a peut-être une sorte de chute émotionnelle, d'ascenseur, décompression.
Sauf que quand t'es dans
mais t'as eu le temps de te relancer depuis, quand même. C'était pas il y a 15 jours, hein, l'élimination sur Fribourg.
Non, je sais bien, mais voilà. je pense que à partir du moment où on est éliminé de cette Ligue Europa, et peut-être qu'inconsciemment dans les têtes on se dit bon, on n'a plus grand chose à jouer à part peut-être on sait que la Ligue des Champions ça sera hyper compliqué. Il est, pour moi Lille est plus fort, Monaco est plus fort, Nice pour moi malgré tout ça reste un petit cran au-dessus par rapport à leur expérience et leur vécu commun qu'ils ont entre eux.
Bien sûr.
Je pense que Kevin a raison, le milieu El Yenaoui Diouf pour moi c'est encore, alors c'est deux super joueurs,
hein. c'est des bons joueurs.
C'est des très bons joueurs, Diouf en équipe de France Espoir et El Yenaoui convoqué avec le Maroc, enfin qui pouvait être convoqué avec le Maroc. Clairement, c'est deux pépites, mais faut les polir, ces pépites. Faut les
c'est un long projet, alors.
Bref, faut être patient, Tout à l'heure, tu disais que le ressort est cassé, peut-être, avec Francaise. Francaise. Après, je ne sais pas si Francaise va rester. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre débat. Mais en tout cas, Francaise est toujours.
J'ai l'impression qu'il est un peu fataliste, quand même.
Il est pas fataliste. Moi, c'est ce que je disais la semaine dernière. Pour moi, il n'est pas fataliste, il est tout simplement réaliste.
Oui.
Alors après, je ne sais pas ce qu'on pense Lionel, mais un entraîneur, ça peut aussi dire, en ce moment, on est moins bien, est moins bien, ça tourne moins bien. Je veux remettre Eli Wahi en place, comme il a dit, parce que c'est un mec qui est un jeune joueur, mais qui a besoin d'être remis en place, qui a besoin d'être piqué.
Oui, qui n'a pas débuté ce soir d'ailleurs, exactement.
Bon, et le banc, pour moi, n'est pas encore assez. Je termine là-dessus. Je trouve que le banc n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait les dernières, par rapport à l'année dernière, je veux dire. Thomasson et Cudini, par exemple, je ne veux pas leur tirer dessus, mais ils sont clairement en dessous de leur niveau qu'ils ont, par rapport au début de saison et même de l'année dernière.
Effectivement, Fulgini, c'est encore plus criant, je trouve. Fulgini est devenu un joueur anonyme de la Ligue 1 alors qu'il a quelques séquences très fortes également.
Il passe à
la
côté de
saison dernière. Il passe à côté pour l'instant. Merci Jérôme d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée,
Jérôme.
Tu reviens continuer sur RMC et dans l'after. Florent est avec nous. Salut Florent.
Et bonsoir messieurs.
Bienvenue
bonsoir
dans l'after.
Lionel, bonsoir Kevin, bonsoir à vous.
Bonsoir Florent.
Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes ce soir. Je vais essayer de reprendre point par point. Lionel, tu as commencé par dire que tu sentais une équipe un petit peu épuisée mentale, physiquement. Je suis tout à fait d'accord. Je vois pas de ressort qu'on peut activer sur la fin de saison. Je vois une équipe fatiguée et ce qui m'inquiète le plus, c'est dans le jeu. Ce soir, on se crée quasiment pas d'occasion. On a deux tirs cadrés dans le match contre une équipe qui joue le maintien sans manquer de respect à Metz. Je vois une équipe vraiment fatiguée et surtout psychologiquement. Et l'auditeur d'avant disait que la fin de la Coupe d'Europe, a marqué quelque chose. Et je vois une équipe comme si on n'a plus de ressort activé. Je vois pas une fin de cycle non plus parce que je pense que Francaise a encore la main sur le groupe. Mais la semaine dernière, il a dit quelque chose de très intéressant, comme quoi il était conscient des limites de son équipe et que malheureusement la Ligue des Champions ce sera pas pour nous, donc faudra consolider cette sixième place en espérant que derrière il y a pas non plus d'équipe qui nous concurrence pour l'instant en attendant les résultats de ce week-end.
Après, je pense qu'il faut rester par rapport à cette déception qui pourrait être de la non-qualification de Champions League. Il faut quand même rester humble et regarder son effectif par rapport au... Si c'est pour faire de la Champions League et faire de la figuration, je vois pas l'intérêt. Donc, Coupes d'Europe, être déçu de pas être en Champions League, c'est un fait. Ok, je le conçois. Oui. Mais ça dure 3 minutes. Après, il y a d'autres Coupes d'Europe. Et puis, pour grandir, il y a la Ligue Europa, mais même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de petite Coupe d'Europe, pour moi, tu apprends par un plus petit niveau. Lens est retombé en Ligue 2, ils ont été les meilleurs, ils sont devenus après en Ligue 1, ils se sont imposés. Donc, ce qui m'embête, c'est que quand on est en Coupe d'Europe, quand on joue la Champions League, on se dit, on est fatigué parce qu'on joue tous les 3 jours. Et puis, quand on n'y est plus, on est fatigué mentalement parce qu'on joue plus la Champions League. Ça m'embête, on est tout le temps fatigué, quoi.
Lionel, n'oublie pas qu'on fait un très mauvais début de saison.
Bien sûr.
Je suis persuadé, et je pense à l'année 1999 où on est relégable.
On est le dernier au mois de décembre.
On est en Europa League. On fait la demi-finale contre Arsenal. On finit l'année 5e. Pour nous, cette saison, la Coupe d'Europe, elle a été un déclencheur dans le groupe et dans notre début de saison. Et je pense que cette élimination, elle a quand même, mine de rien, marqué quelque chose, parce que dans le jeu, on ne retrouve pas.
Je suis d'accord, mais elle devrait pas. Je suis d'accord avec toi, voilà. Hein, sur ton analyse, t'as raison. Mais ça ne devrait pas, quand t'es joueur lensois et que tu viens, t'es éliminé de la Champions League, tu te dois de donner déjà pour toi ton amour propre d'être encore européen, parce que c'est en restant tout le temps et en te mettant la barre assez haute, Champions League ou pas, être bien européen, sûr. C'est difficile d'être européen et d'accumuler les Coupes d'Europe. Ça doit être un but, un objectif.
Et puis il faut pas oublier que cette équipe, c'est une équipe. Je vais pas employer le mot moyen, mais en tout cas individuellement, il y a pas de joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Et aujourd'hui, je te pose une question. Tu vois, l'Olympique Lyonnais, qui sont quand même dans une belle dynamique. Quel joueur aujourd'hui de Lens, à part Brice Samba, sont titulaires indiscutables à l'Olympique Lyonnais?
Non.
Quand tu regardes, il y en a pas beaucoup.
La Cazette est au-dessus. Cacré,
non, mais
Cacré,
il y a un Danso titulaire à Lyon.
Pour moi, il y a que Medina.
Sur Medina aujourd'hui, hein, parce que le même joueur,
aujourd'hui à Lyon, qui n'est pas non plus la plus grande équipe de Ligue 1.
Comme quoi aussi, c'est dans les têtes. Medina, parce que c'est même joueur, il y a 3 mois, 4 mois.
Non, mais c'est parce que c'est
à Lyon, n'était plus pareil.
C'est exactement. N'oublions pas qu'avec cette équipe-là, amputée effectivement de deux de ses meilleurs joueurs saison dernière, en l'occurrence Seko Fofana et Loïs Openda, Lens reste sixième malgré ses quatre matchs sans victoire. Hein. Et Lens restera sixième au soir de cette journée de Ligue 1. Lens est sixième, mon cher. T'imagines tu l'aurais signé il y a quelques mois.
Ce que dit Kevin, c'est là où il a raison. C'est-à-dire, et c'est quelque chose où on a vraiment du mal, qu'on a vraiment du mal à comprendre en France. On ne prend que des stades, que des stats individuels. Ça m'énerve. En fin de compte, c'est le collectif qui fait les individualités. Ça n'est jamais les individualités qui font le collectif.
Mais
les
individus. À Lens, c'était un gros collectif,
exactement,
ultra bien coaché, avec un état d'esprit et une osmose, je pense, dans ce vestiaire, qui était sublimé par deux individualités, trois, avec leur gardien.
Exactement.
Bon, voilà le collectif.
On parle de mettre dans un instant. Merci Florent, on a fait le 32-16.
Salut
Florent. Bon, tu pourras faire la frise peut-être face à Clermont, que tu recevras le week-end prochain à Bollard avant d'aller à Marseille. Voilà pour le calendrier à court terme du Racing Club de Lens. Dans un instant, on parle de Metz. D'abord, sachez que mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. RMC vous offre 100 places pour les JO. Dès aujourd'hui, dans chaque émission d'RMC, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4 nage et bien plus encore. Envoyez Paris 2024, Paris 2024 au 7-32-16. Et vous pourrez être tiré ce soir. Le gagnant sera désigné ce soir. Il pourra même choisir ses places. Voilà, n'hésitez pas à envoyer Paris 2024 au 7-32-16. Nous revenons dans un instant avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. Lens battu à Metz. Metz qui se remet à croire au maintien. On en parle avec vous, supporter messien au 32-16. On vous attend dans l'after. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. On est ensemble jusqu'à minuit. Merci d'être avec nous et également en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Vous pouvez vous abonner, vous le savez, vous êtes 147 000 abonnés actuellement. Merci à Mike Delfino, notre modo.
Ah, j'ai vu, là, ils n'aiment pas mon look sur
Moi, YouTube. J'aime beaucoup. Très artiste italien, tu vois.
Pas grave. Ça.
Ouais. Veste moutarde. Le béret. Ah, ben non, ouais. Ne jamais soucier du regard des autres, mon cher Lionel. Jamais.
Ah ouais, non. Alors là, il y a longtemps que je serais mort.
Exactement. Bon, on a parlé de Lens, parlons de Metz à présent. Victoire Messine de Buzyn à Saint-Symphorien. Tiens, j'accueille Guillaume au 32-16. Salut Guillaume.
Nico, salut Lionel.
Salut Guillaume. Bienvenue. On est heureux de t'accueillir. Tu sors Saint-Symphorien d'ailleurs. Bon, raconte-nous l'ambiance parce que certains se moquaient un peu sur les réseaux doucement. Metz, vous n'avez pas gagné la Coupe d'Europe ni la Coupe de France. Mais bon, sincèrement, cette joie a été spontanée et on la comprend, nous, ici.
On n'a peut-être pas gagné une Coupe d'Europe, mais en tout cas, le public messin était très chaud ce soir. Très chaud. On a vu un public messin qui a été derrière son équipe, pardon, après une première entame, on va dire, où il y avait un peu plus de calme et de protestation de la part des supporters messins. Je ne sais pas si vous avez vu le tifo un peu Ghostbusters.
Ouais. Ouais. Donc, on devient voilà. on devient des fantômes à force de, je sais plus le terme exact.
C'est ça. À force,
De soutenir des fantômes, quoi.
Mais 23 000 quand même, c'est-à-dire 23 000 au jour d'aujourd'hui, qui, un public qui est là pour, et je pense que ça doit souder tout ça parce que, vous êtes venus en nombre, les joueurs, ça les transcende, c'est un tout.
Bien sûr.
Ces joueurs-là auraient pu être complètement abandonnés par leur public. Le stade, c'est 23 000, c'est plein. Avec 23 000, vous remplissez, c'est combien le taux de remplissage ?
On n'est pas de Guillaume.
On a perdu Guillaume.
Dans un instant, on va le rappeler.
Ça doit être ça, hein, ça doit être à peu près plein.
Certainement. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'abonnés. Hein. Ils ont un record d'abonnés, hein, Metz, hein, après la excellente saison dernière en Ligue 2, la montée. Parlons aussi de. Bon, je rappelle le classement. Metz, hein, 17e de Ligue 1, 26 points, qui recolle, hein, à Lorient, 26
tu sais
points également. Nantes, 15e, 28 points. Le Havre, 28 points. Il y a un groupé là. Je rappelle que Metz a bien sûr un match en plus. Dis-moi, Lionel.
Eh ben, là, avec le recul, en fin de compte, je vois Metz sur la deuxième mi-temps de Brest, dans la même lignée. Ils sont carrément sur la même, les mêmes intentions, les mêmes. C'est le même match qu'ils ont fait là. Alors avec mis à part le fait qu'ils ont encaissé ce penalty, mais dans les intentions, dans la solidarité, dans l'abnégation, dans tout, ils sont carrément sur la lancée de Brest. Et s'ils arrivent à enchaîner 2-3 matchs comme ça, et notamment le prochain qui sera au Havre, attention. Attention, il y a des équipes qui n'ont pas cette valeur-là. Je parle pas de la valeur footballistique. On va pas parler du niveau de jeu. Ils vont pas se transformer. Ils vont pas devenir meilleurs que le PSG bientôt. C'est pas ça. Mais rien que ça, ouais, avec un public qui ne les abandonne pas et tout ça. Attention,
il y a aussi l'énergie du désespoir pour les Messins. C'est quand tu sais que tu te reste plus grand chose à vivre, tu peux te sublimer, te transcender. Et j'ai l'impression quand même que ce soir, après avoir concédé cette ouverture du score, ils se sont dit que là c'est maintenant ou jamais, avec bien sûr la qualité bien au-dessus de la moyenne en Ligue 1 de finisseur de Mikotadze.
Le mec très au-dessus de tout le monde là, enfin à Metz en tout cas.
Ouais, pas, il y a lui et les autres. Pas Amsterdam, hein. Mais à Metz en tout cas, il a vraiment fait la diff aujourd'hui.
Il y avait une stat, je crois que c'était 0,9 buts pour les Messins quand il est pas là, et là ils sont à plus de 1,3 quand il est là.
Non, mais la victoire elle est pour lui.
Il te fait
les gars.
Mais il est exceptionnel.
Et depuis qu'il met, c'est des occasions qui se créent tout seul. C'est des gestes exceptionnels. Tiens, Guillaume est de retour avec nous.
Et il y a pas que les buts, parce qu'il y a son travail défensif aussi.
Mais c'est un joueur.
C'est hallucinant. Sinon, le taf qu'il fait. Hein.
Guillaume, ouais, on parlait de Mikotadze, il mérite une statue, non, ça ne fait rien. Hein.
Je vous prie de m'excuser, j'ai un Lensois qui a voulu me couper la ligne, c'est bon, je me suis battu.
Te bats pas, surtout pas de violence. Alors vas-y, on parlait de Mikotadze, quoi. C'est sa victoire ce soir.
Bien sûr, Mikotadze, c'est sa victoire, mais il l'a fait en fin de match, il est venu devant les deux groupes de supporters et on criait Mikotadze, Mikotadze. Il a fait un signe de non, c'est pas moi, c'est toute l'équipe.
Bien sûr.
Ça, c'est Mikotadze, puisque déjà à l'aller, moi je sais qu'à l'aller, j'avais fait le déplacement à Lens. On avait pareil scandé son nom et c'était non, c'est pas moi, c'est l'équipe. Et ça, c'est Georges Mikotadze, c'est vraiment un joueur qui est altruiste. Alors c'est vrai que sur ces derniers matchs, bah, forcément, Metz brillait un peu moins, donc lui brillait par conséquent un peu moins également. On l'a retrouvé, il a eu un peu de mal en revenant de l'Ajax. Franchement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas être sur le banc des remplaçants à l'Ajax Amsterdam, avoir que des bouts de match, ça a dû être très compliqué pour lui. Voilà, il revient, il montre que ben forcément c'est un attaquant, bon, on va pas dire de très grande classe, mais il montre en tout cas que voilà, il est présent, il est là pour faire bouger les défenses et il est là pour aider Metz à se maintenir.
Non, mais c'est tombé du ciel, hein, cette histoire-là. Mikotadze qui part l'été dernier pour environ 16 millions d'euros à l'Ajax, qui fait 9 apparitions, 2 titularisations seulement, lui dit. Ça n'a pas marché parce qu'on m'a pas fait jouer à mon poste de numéro 9. Il revient prêté avec option d'achat à 10 millions d'euros.
10 millions, ouais.
Donc tu vois, derrière, peut-être qu'il va permettre à Metz d'arracher le maintien. Ou peut-être aussi permettre à Metz de renflouer un peu. Parce que au 30 juin, il est à toi si tu lâches sur les 10 millions d'euros. Et tu peux le revendre bien plus ensuite au cours de l'été. C'est un joueur clairement qui a son avenir en Ligue 1, les gars. On est d'accord, hein.
Ouais, ah, oui,
c'est-à-dire dans la hiérarchie des attaquants en Ligue 1.
Bah,
il n'a pas à pâlir de certains attaquants de gros clubs français présumés. Hein.
Bah, non, de ceux qui font le top, même le top 5. Hein, dans le top 5, hein, tu regardes, que ce soit Nice.
Est-il inférieur à Terem Moffi, franchement ? Pas sûr.
Non, mais après, non. C'est un autre style d'attaquant.
Nice,
et puis en plus, il va faire l'Euro, il va prendre encore de l'expérience avec
sa sélection. Et oui, avec la Géorgie, bien sûr.
Donc, c'est forcément un joueur qui a une qualité très au-dessus de la moyenne dans la finition, parce que les deux gestes de ce soir, c'est quand même très haut niveau quand il a retrouvé la confiance qu'il avait perdue au début de saison aux Pays-Bas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé dans le meilleur Ajax, loin de là, voire même un des pires des 20 dernières années. Donc ça n'a pas dû l'aider, mais ce soir, c'est vrai que il est très très juste et aussi il est très énergique dans le pressing et dans les efforts qu'il fait pour l'équipe, et ça c'est bien.
Il a une vélocité. Et des appuis hyper rapides. Bref, c'est un joueur au-dessus de la moyenne.
C'est toujours important.
On le dit, Mikotaze à l'OM, faut qu'il vienne à Marseille sur le chat. On le dit,
mais non, Mikotaze est supérieur à Moumbagna.
Bien évidemment. Il est lyonnais, Mikotaze, t'as raison. Et pourquoi pas à Lyon aussi. Alors attention, c'est un peu plus cher que Moumbagna, Mikotaze quand même.
Moumbagna, ils l'ont acheté combien? 30?
Pardon?
Combien ils l'ont acheté?
Non.
Non, Moumbagna, c'est combien Moumbagna? C'est... Attends, je vais te dire ça dans un instant. Vas-y, tu voulais dire quelque chose. Non, pas 30 millions d'euros. Non, quand même
pas. Tu sais qu'il m'a dit ça tout à l'heure.
Je sais pas à qui tu parles, mais là. Vas-y, Guillaume.
Si Moumbagna, c'est 30 millions, Mikotadze, c'est 100 alors.
Mais oui,
mais Mikotadze, moi. Mais là.
Change les fréquentations,
moi, par contre, l'option d'achat, moi, j'aimerais bien voir si. S'il la garde, s'il y a des centres.
Ah, en fait, il y a eu des rumeurs, il y a eu des bruits qui ont circulé. Comme quoi, alors après, pareil, hein, moi c'est une rumeur que j'ai vu passer, je ne sais pas du tout si elle est fondée ou pas. L'Ajax n'aurait pas payé des traites au FCMS s'élevant à un montant de 10 millions d'euros. Et l'option d'achat, elle serait là. Après, est-ce que cette information est fondée? Je ne sais pas.
Oui, attention. Pour bon, Moumbagna, c'est 8 millions d'euros.
Ouais. 8 millions.
Ouais.
Moumbagna, c'est 8, Mikotadze.
Ça fait quand même 15. Pour Moumbagna, ça fait quand même 8.
C'est énorme. Aujourd'hui, en tout cas, mais bon, bref. Metz, en tout cas, tu y crois sérieusement au maintien, Guillaume?
J'y croyais de moins en moins. Là, franchement, honnêtement, on a vu deux, même sur les trois derniers matchs, on voit à Brest qu'il y a vraiment une réponse de l'équipe. Ce soir, on a vu une équipe très collective jouer ensemble. Et jouer pour un même objectif, essayer de gagner des matchs, essayer de gagner des points. On a vu pareil face à la fin de match à Monaco. Bon, Monaco avait fini de jouer en fin de rencontre, donc c'est pour ça que Metz en met deux. Brest, pareil, on a vu une équipe à réaction. Ce soir, on encaisse l'ouverture du score, Metz répond. Voilà, si c'est comme ça sur la fin du calendrier, attention, c'est très compliqué parce qu'on va se déplacer au Havre la semaine prochaine. On va recevoir Lille. C'est Lille, Strasbourg, Paris pour finir. Ça va être très compliqué. Paris, la dernière de Kylian normalement en France.
Et oui.
Donc ça va être très compliqué cette fin de calendrier. Tant que c'est mathématiquement possible, on va y croire, bien entendu.
Tout à fait.
Guillaume, j'ai une petite question. Toi qui étais là-bas, vite fait. Il y a quelque chose qui me gênait, moi, dans l'entame de match des Messins, c'est-à-dire que Endoram jouait très très bas et revenait dans sa ligne de 4, c'est-à-dire qu'il jouait il jouait à 5 derrière, abandonnant complètement le milieu de terrain, chose qui a été complètement changée à un moment donné. Est-ce que c'est sur l'intervention de Bologna qui lui a demandé de jouer, il a demandé à Endoram de jouer plus haut, de jouer un cran plus haut, ou est-ce que ce sont les joueurs tout seuls qui ont eu, est-ce que toi t'as vu l'intervention de Bologna? Parce que ça mettait vraiment les Messins en difficulté, notamment au milieu de terrain, et ils subissaient. Et à partir du moment où Endoram a joué plus haut, là ils sont rentrés dans le match, ils ont gagné les duels. C'est Bologna
Bologna, on le voit mais on l'entend pas. Donc en soi, les joueurs là, ils avaient déclaré il y a pas longtemps que Bologna donnait ses consignes et puis qu'au final les joueurs
ils faisaient ce qu'ils voulaient
et qu'ils faisaient leurs changements.
Voilà, c'est pour donc, ça ma question.
Endoram peut jouer au deux postes. Il peut jouer autant dans une défense que dans un milieu de terrain. Après, moi j'ai vu aussi Papa Diallo, donc l'ailier gauche, revenir carrément en poste de piston et Udol coulisser en défense centrale.
Oui.
Donc voilà, c'est des consignes qui ont sans doute dû être données par l'AS de Bologna. Mais aujourd'hui, Bologna n'a pour moi plus la confiance des joueurs et plus la confiance des supporters.
En tout cas, faudra avec Bologna chercher le maintien. Merci Guillaume, on a fait le 32-16. Très bonne soirée à toi.
Salut Guillaume.
Un petit bonsoir.
Très très court en 3 secondes parce qu'il y a Franck qui parle là.
Alors bonsoir à tous ceux qui m'ont reconnu, à tous les alternants de la BPCESC. Un gros big up à tout le monde et bonne soirée.
Bonne soirée Guillaume. Franck en direct.
En se mettant un ballon en corner, j'ai l'impression qu'on se met le doute tout seul, alors qu'en effet, quand je vois les 25 premières minutes, je ne pense à aucun moment que le scénario qu'on a eu ce soir va se produire. Voilà. Et pourtant, il s'est produit. Et pourtant, il s'est produit. Donc, mais en effet, je pense qu'on se met en difficulté seul. Alors, je parle même pas des, notamment du second but qui est qu'on donne pas, mais en tout cas, on permet grandement à l'adversaire de le marquer. Mais notre mi-temps bascule pendant un quart d'heure comme ça. Vous dire que j'ai une explication rationnelle, j'ai pas une explication rationnelle.
Voilà, Franck, c'est assez rare de le voir dans une réaction un peu désœuvrée comme ça, mais sans explication.
Ouais. Là, il est heurté là.
Ah ouais,
là,
sûr qu'à son regard, vous n'avez pas l'image forcément puisque vous nous écoutez, mais il est marqué, Francaise. Bah, 4 matchs sans victoire d'affilée. Ouais. Metz n'avait gagné que 2 fois à domicile cette saison, quoi. Tu vois. Alors, on écoute la deuxième réponse.
D'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une semaine d'entraînement de cette qualité. On en a parlé avant le match, d'ailleurs, dans la causerie. Et que les 25 premières minutes ne me laissaient pas présager ça. Donc, j'avoue que, oui, il y a eu en tout cas la suffisance, je ne sais pas si c'est le terme juste, un manque d'exigence, un manque de. Oui, il en a manqué. Ça, c'est évident qu'il en a manqué, qu'il nous en a manqué. Ça, c'est une évidence. Et moi le premier, parce que c'est moi qui suis le responsable des résultats.
Voilà, pour Franck Hez. Hein. Ce qui est bien, c'est avec cet homme-là qui est sur une série de 4 matchs en victoire, une défaite à Metz, il reste dans l'explication. Il reste souriant quand même. Et dans l'échange avec les journalistes.
Il reste dans l'explication, mais là, je sens sa voix un peu presque tremblante, quoi. Là, il a pris un petit coup sur la tête, et c'est normal.
Et
c'est vrai qu'il dit qu'il avait une belle semaine d'entraînement et qu'en plus, les 20 premières minutes étaient encourageantes.
Bien quand t'es coach, tu comprends pas ce qui s'est passé.
Ouais, bien sûr.
Ça t'échappe. Allez, on revient dans un instant. Dans un instant, on va écouter Antoine Comboiré, bien sûr, qui lui est en colère contre la reprogrammation de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end. Reste avec nous, c'est l'after avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. À tout de suite, sur
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after foot avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. Vous écoutez l'after sur RMC, il est 23h34. Avant de parler de la semaine de Coupe d'Europe à venir pour Paris, Marseille et Lille, d'abord, cette question, la Ligue a-t-elle raison de bouleverser son calendrier pour préserver ces 3 clubs français avant leur quart de finale retour? Antoine Comboiré, entraîneur du FC Nantes, hein, qui nous offre à peu près un avis tranché par conférence de presse, hein, depuis qu'il est revenu, même avant qu'il parte de Nantes, eh bien, il a son avis très clair sur la question. Tiens, écoutez-le et on réagit après.
Non mais je comprends, hein, je comprends qu'aujourd'hui les clubs qui jouent le maintien sont pas contents du tout. Mais après c'est très compliqué parce que donc la Ligue aujourd'hui veut protéger donc les clubs qui font les Coupes d'Europe. Et puis mais en même temps il faut pas affaiblir donc ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Mais moi je trouve qu'il faut que la Ligue surtout défonce son championnat. Et la Ligue, faut qu'il fasse attention. Parce qu'en jouant à ce jeu-là, comment on fait en fin de saison? La Coupe d'Europe, ça vient après. Hein. Même si nous, on veut tous que vous imaginez. Moi, je suis supporter du PSG, donc j'aimerais voir le PSG gagner la Ligue des Champions. J'aimerais voir Marseille gagner la Ligue Europa, bien sûr. Moi, je défends mes clubs français hein, sur la Coupe d'Europe, sur la scène européenne. Mais d'abord la Ligue. Hein.
Bon, voilà. Alors, les 3 matchs en question hein, qui sont reportés.
Il dit tout et son contraire.
Qui devaient jouer ce week-end. C'est Lorient PSG, Monaco-Lille, Marseille-Nice, qui se joueront le mercredi 24 avril dans le cas de Lorient, par exemple. Il faudra jouer donc contre Paris le mercredi et le dimanche contre Toulouse. Voilà, en clair, c'est ce qui veut dire. Pas normal qu'un club comme Lorient, là, en l'occurrence, soit pénalisé. Enchaîne 2 matchs contre Paris et Toulouse en 4 jours, alors que Lorient joue sa survie en Ligue 1.
Oui, mais Antoine, ce qu'il dit, c'est que la Ligue doit protéger son championnat. Ok, pas de souci. Alors, d'un côté, on n'est pas content quand nos équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe ne jouent pas la Coupe d'Europe parce que c'est la petite Coupe d'Europe, parce que c'est ci, parce que c'est ça. On dit on prend pas de points à l'UEFA et on a de moins en moins d'équipes qui sont qualifiées. Et d'un autre côté, quand on a la Ligue qui justement pour les méritants, pour ceux qui vont loin, pour ceux qui vont marquer des points l'indice UEFA, vont gagner des matchs et on les préserve parce que le fait d'avoir un indice plus important, ça te permet d'avoir plus d'équipes qualifiées. Et peut-être que Lorient un jour, peut-être qu'un jour Lorient, Le Havre, Nantes seront contents d'être 7e qualifié en Coupe d'Europe et puis pour pouvoir continuer. Donc protéger son championnat, c'est aussi protéger les plus méritants et ceux qui veulent aller loin et qui jouent la Coupe d'Europe à fond pour permettre d'accumuler ces points pour l'indice UEFA.
Kevin, moi je suis d'accord avec Comboiré ou pas?
Non, moi je suis pas d'accord avec Antoine Comboiré parce que c'est pas clair ce qu'il nous raconte là. Alors on voit bien que il ménage peut-être les susceptibilités des uns et des autres, mais il nous dit qu'il comprend la Ligue, mais qu'il comprend aussi les clubs qui font la Coupe d'Europe. Non, il y a un moment, un choix a été fait, faut arrêter de tout commenter. Antoine Comboiré, il faut qu'il se concentre sur son équipe parce que là, après il nous dit, je suis supporter du PSG, mais je veux que Marseille gagne la Coupe d'Europe. c'est un peu footix là quand même sur le coup. Mais
quelques Français.
Non mais quand il dit ça, c'est dans l'indice aussi.
Je plaisante.
Pour tout ça, pour notre championnat, pour valoriser notre championnat.
Je plaisante. Après, pour une fois que la Ligue met quand même en valeur les clubs qui sont quand même en quart de finale de Coupe d'Europe. Certes, je comprends que c'est pas facile pour les clubs qui jouent le maintien d'avoir un week-end sans match, mais dans ce cas-là, voilà. Après, on va pas se plaindre qu'on n'a pas de points UEFA, on va pas se plaindre que
on a des problèmes pour avoir des droits parce que notre championnat n'est pas attractif. Si on a 4 équipes en quart de finale, eh ben on sera bien content. Et là, tout d'un coup, on va avoir de l'argent pour vendre notre championnat.
T'as raison. Après, l'autre question,
on a besoin de tout ça.
En Angleterre, ils vont jouer ce week-end. Par exemple, le Barça va jouer demain soir.
Ils ont eu un peu de repos grâce à la
Coupe du Roi.
Il y a pas que les Hollandais font souvent ça. Les pays comme nous, aujourd'hui, on n'est pas un grand pays, on n'est pas dans les 4 championnats.
Donc, il faut mettre le maximum de chance de l'autre côté.
Exactement, les Néerlandais font souvent ça quand ils ont une équipe qui va très loin en Coupe d'Europe. Et ben, ils essaient d'arranger l'équipe pour que ça rapporte plus de points au classement UEFA. Et on serait bien idiot de pas le faire, parce qu'en plus, on est en concurrence avec eux.
Concurrence avec eux, certes, hein, mais je sais pas si c'est forcément pénalisant que de jouer un samedi à 17h pour
les matchs sont
ou un samedi soir.
Deux matchs en 8 jours.
Avant de rejouer le jeudi soir pour dans le cas de Marseille, par exemple.
Non, mais c'est deux matchs en 8 jours. Mais bien sûr que c'est pénalisant pour Marseille. Ils ont déjà pas d'effectifs.
C'est compliqué parce que
ils ont pas d'effectifs, les mecs.
On en revient au débat, la gestion d'effectifs.
Paris, c'est pas un problème. Les Paris peuvent envoyer les 19. Ils sont capables de d'être champions quand même. Ils ont 12 points d'avance. Mais pour Marseille, c'est un gros problème. Pour Lille, c'est un gros problème.
Pour Lille, c'est un gros problème aussi.
Bien sûr. Et là, pour le coup, je comprends les clubs, mais là, il faut aussi comprendre que c'est quand même un quart de finale, trois quarts de finale de Coupe d'Europe. Ça arrive une fois tous les 20 ans.
Qui d'ailleurs sont ouverts, justement. Lançons le débat dès à présent ensemble. Quel est entre Paris, Marseille ou Lille, selon vous, appelez-nous 32-16, l'équipe qui a le plus de chances de voir les demi-finales. Je rappelle que ces trois équipes ont été battues. Paris 3-2 au Parc des Princes par le Barça. Marseille à Lisbonne par Benfica 2-1. Lille à Birmingham par Aston Villa 2-1 également. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Je t'envoie 1, 2, 3. Quel est celui qui, en tout cas, te semble avoir le plus de possibilités pour voir les demi-finales?
Et c'est pour ça qu'on discutait de ça cet après-midi. Je trouve que j'aimerais bien avoir l'avis des supporters des clubs en question parce que qui nous appellent au 32-16. Moi, je pense que celui qui, si je dois mettre, je suis pas un grand parieur, mais si je dois mettre un petit billet, je mettrais plutôt sur Lille parce que Lille, ils reçoivent à domicile. Ils ont quand même.
Tu reçois toujours à domicile. C'est pas mal.
Non mais ils reçoivent, bon d'accord, ils reçoivent ce match chez eux, devant leur public. Ils ont quand même tenu Aston Villa, qui est quand même une équipe. Je pense d'un meilleur niveau que eux, mais devant leur public, ils ont pas beaucoup de pression. Ça reste déjà une belle performance pour eux d'avoir un quart de finale de Coupe d'Europe, même si c'est que la conférence. Moi, je pense qu'ils ont de bonnes chances. Le Paris Saint-Germain, avec un Kylian Mbappé qui se réveillerait, je pense que ce serait mes deuxièmes sur la ligne de départ.
Le retour d'Hakimi également. Enfin, il y a pas mal.
Ouais,
de,
bon après,
de critères,
ça va pas être facile hein, au Barça. Je pensais pas que ça allait être facile déjà avant la double confrontation. Et puis en dernier, je mettrai l'Olympique de Marseille.
Ah, moi, j'ai mon premier. Vas-y.
Même s'il y a le Vélodrome derrière, je trouve quand même, et je le dis depuis des semaines, que l'OM, ils ont des joueurs qui sont vraiment pas au niveau d'un quart de finale de Coupe d'Europe, même d'un top 5 de Ligue 1, donc ça va être difficile. Leur chance, c'est que le Benfica, ils sont pas dans une énorme saison, mais je pense quand même que le Benfica est au-dessus de cet OM.
Lionel.
Moi, je mettrais l'OM en premier, moi.
Ah bon?
Ouais. Tout simplement parce que c'est les 20 dernières minutes de Benfica ne m'ont vraiment pas plu. C'est plus le grand Benfica qu'on a eu ces dernières années. Je suis d'accord avec Kevin là-dessus. Même si l'OM, je pense qu'ils vont récupérer quand même un ou deux joueurs. Ils étaient en énorme difficulté durant tout le match. Il y a eu des trucs, mais avec Quentin Merlin qui se blesse. Tout a été négatif. Et malgré tout, les 20 dernières minutes, pour moi, je les donne à l'OM. Parce que j'ai vu cette équipe de Benfica. Ok, les joueurs sont capables de jouer en contre-attaque. Ok, mais ils en font. Ils ont dans le excuse-moi l'expression, mais dans le buffet, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon, dans le buffet, ils ont 5-6 contre-attaques. Aller-retour, transition. Derrière, ils ne peuvent plus en faire. Et donc, en fin de match, à partir du moment où l'OM, poussé par son... Il va falloir qu'ils fassent gaffe aux 5-6 premières contre-attaques qu'il va y avoir, parce que poussé par leur public, il ne faut pas qu'ils encaissent de but. Mais par contre... En mettant de l'intensité et tout, je pense que l'OM est capable de gagner à partir de la 30e minute de la deuxième mi-temps. Ils sont capables de renverser le truc.
Je suis assez d'accord avec toi. Attention, hein, 65 000 personnes au Vélodrome. Il faut pas en prendre.
65 000.
Poussé par le public et tout, attention.
D'écart, bon. Appelez-nous, Sparta Marseille, pour nous en parler après ce que vient de dire
tu pensais ça,
Lionel.
Tu
et pensais, le PSG
tu
aussi.
Tu pensais ça au bout de 70 minutes hier? Parce qu'il y a un moment, il y a le jeu.
Moi, je l'ai écrit, hein, j'ai envoyé un tweet à la 70e, j'ai marqué le Benfica sont cuits. Et il n'y a plus rien eu derrière.
Oui, d'accord, mais bon.
Ils étaient cuits.
Ils ont quand même beaucoup plus de qualité individuelle. Bien sûr,
tout
est possible hein, dans le foot. Mais il faudra quand même. Tu as dit que Quentin Merlin est blessé, il faudra quand même un Marseille beaucoup plus tranchant, un Marseille qui a beaucoup plus de joueurs qui atteignent un niveau.
Plus adroit techniquement aussi. Voilà, c'est tout.
Je te dis tranchant, je veux pas dire que c'est des pipes, mais il y a quand même des joueurs. Il y a quand même des joueurs qui sont en grande difficulté.
Tu leur donnes dans l'adversité et tout. Moi, je pense que les deux buts, tu peux les marquer.
Ils te l'ont donné le but. Hein.
Mais c'est pas grave, ils peuvent en donner un autre.
Ouais.
S'ils veulent.
On prolonge le débat dans un instant avec vous au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler.
C'est mon opinion.
À Marseillais, parisien. Je vous donnerai mon opinion dans un instant. Je dirai quel est celui que je vois pas se qualifier. Reste avec nous, c'est l'after sur RMC avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier. Il est 23h43 tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier, c'est l'after sur RMC. Il est 23h45, c'est le dernier quart d'heure. Merci d'être avec nous. Un petit débat là. Qui a le plus de chance entre Paris, Marseille et Lille de voir les demi-finales de Coupe d'Europe? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en parler. Moi, je vois Lille en tête dans ce pronostic là.
Pour se qualifier.
Attention, Lille, très fort à domicile cette saison. Dans son jardin de Pierre Mauroy, 55 000 personnes en fusion. Tout le monde s'est donné rendez-vous dans le Nord pour pousser très fort jeudi à 18h45, hein, coup d'envoi. J'ai pas vu une nette différence entre les équipes. Hier, ça peut faire deux partout également face à Aston Villa. Je sais pas. Voilà, moi je mettrais Lille effectivement comme toi, Kevin, devant. Je mettrais Marseille en deux. Paris, j'ai plus de mal à y croire. Parce qu'on en parlait pendant la pause avec Kevin, je trouve qu'il y a un déficit technique parisien par rapport, en tout cas une infériorité technique parisienne par rapport à ce qu'on a vu mercredi soir au Parc, côté barcelonais. Il suffit de regarder les milieux de terrain parisiens et les milieux de terrain barcelonais.
Qu'est-ce que t'as pensé, amis, toi Lionel, de la
Pedri qui rentre, qui va peut-être démarrer mardi, Frenkie de Jong. Ouais.
Ils ont joué comme Paris s'est joué. Ils ont fait du pari et ils n'ont pas, pour passer ce Barça-là, pour moi il va falloir que le PSG soit au-dessus, fasse un grand match qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps.
Non mais ce Barça-là est supérieur au PSG dans l'absolu quand même.
Bien sûr. Ah,
non,
dans l'absolu, ces derniers temps, sur les trois derniers matchs, oui. Maintenant, si tu regardais au mois de janvier, février, honnêtement, je mettais le PSG devant.
Moi, je pense toujours que le PSG a bien sûr avec un but d'écart et puis il y a toujours l'incertitude.
On dit pas que c'est impossible.
Non, mais il y a surtout l'incertitude Kylian Mbappé. C'est quel Kylian Mbappé qu'on va avoir? Est-ce que c'est le Kylian Mbappé qui est capable de mettre deux buts sur deux demi-actions à la Sociedad, ou est-ce que c'est le Mbappé qu'on a depuis trois semaines qui est complètement transparent? Après, il y a aussi un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de certitude au PSG. Moi, je croyais qu'il avait trouvé son 11 de départ, je l'avais dit la semaine dernière.
Ah, mais c'est tout.
Mais là,
pareil.
Il nous a sorti une compo. Honnêtement, celui qui l'avait, cette compo, c'est pire que le quintet, là. Là, c'était celui qui avait cette compo.
J'ai plus de facilité de donner le quintet que la compo du PSG en ce moment.
Franchement, cette compo, franchement, elle m'a vraiment, vraiment surprise et je pense que mes amis supporters parisiens étaient aussi
très surpris. Ce qu'il faut,
aussi arrêter de penser, c'est que c'est la Champions League. Tout d'un coup, ton équipe va devenir très très forte pour battre le Barça, pour battre ces grandes équipes-là. Non, tu joues en championnat, tu joues en Champions League comme tu joues en championnat. Ces derniers temps, je regrette, le PSG ne survole pas le championnat. Quand je regarde les résultats, ils font tourner, ils font machine, ils font ci, ils font ça, ils laissent souffler les joueurs et tout. Mais je regrette, c'est pas ça le football, ça c'est du football de footix. Il faut savoir jouer des matchs à intensité, savoir les répéter, que les Mbappé et compagnie fassent, allez, au minimum 60 minutes. Mais qu'il les fasse à fond et qu'il les fasse bien, parce que c'est pas en les laissant souffler, en les mettant sur le banc. Mbappé, mais tout le monde, tous les joueurs. C'est tous les joueurs. c'est tous les joueurs, parce qu'ils ont mis l'équipe B, par exemple, bah, ça a déjà fait assez râler que comment Enrique a fait tourner en mettant son équipe B. Non, ces joueurs-là sont capables de faire une heure de match à haute intensité et après tu fais jouer les autres. Mais si c'est pour changer tout le monde et croire que maintenant ils sont reposés, ils vont gagner contre le Barça, ils vont leur mettre un bouillon et tout, mais il faut arrêter de rêver, c'est pas ça le football, ça serait trop facile. Dans ce cas-là, on aurait deux équipes et puis ça. Mais c'est pas ça le football. Ça, c'est du football de footix.
Abdella est avec nous, 32-16, supporter du LOSC. Salut Abdella.
Oui, bonsoir à tous.
Retour de l'after avec Kevin, avec Lionel. Bon, t'es Lillois. À combien tu estimes tes chances de voir la demi-finale, toi?
Alors, en fait, moi, je sais pas si. En fait, moi, je vais juste répondre à Julien Laurence hier soir.
Ah oui?
Parce qu'apparemment, en fait, en gros, il disait personne ne connaissait Lille en Angleterre en première ligue. Moi, ce qui est en fait en gros, ce qui me dérange dans. Après, Lille, en fait, en gros, quand on voit les derniers jours, en fait, en gros, sur les 5 dernières années, ou les 6 dernières années, elle était 5 fois en Europe. Donc, en fait, en gros, c'est pas un petit club. Normalement, c'est connu. Moi, franchement, vu que je parle un peu anglais, donc je suis parti sur le site anglais et j'ai regardé la presse britannique, tout le monde, en fait, en gros, craignait Lille et ça reste quand même un grand club. Français, je dirais pas européen, mais français, c'est un grand club. Et quand je vois tous les joueurs qui sont partis de Lille ces dernières années, quand je vois Osimhen, Liao, Botman, Gabriel, et il y en a pas mal. Il y a aussi, il y en a, en fait, en gros, Renato Sanchez. Ça reste quand même, en fait, en gros, un grand club français.
Oui, mais Abdella, je pense pas que. Alors, Julien, il disait pas ça contre Lille. Julien, ce qu'il explique, on le dit souvent, notamment lundi soir, que les Anglais, ils ne regardent que leur championnat, en fait.
Oui.
C'est valable pour plein de clubs français. Hein. Ah, oui. Je suis même pas sûr, à part le PSG, que les Anglais puissent te citer trois joueurs de Marseille, de Lyon, de Lens, évidemment. C'est comme ça.
Ils
c'est
très leur propre équipe.
Auto-centré, en fait, la première ligue.
En fait, moi, je suis d'accord avec vous, mais les Anglais aussi. Ils connaissent tous que Lucas Digne vient de Lille. Il a été formé à Lille. Ils connaissent aussi, en fait, en gros, quand les transferts de joueurs qui vont en Angleterre, ils connaissent Nicolas Pépé, il venait de Lille. Ils connaissaient Gabriel, Botman.
Oui, faut pas prendre
au pied de la lettre ce qu'a dit Julien Laurence. Là, il te parle d'une atmosphère générale, comme vient de le rappeler Nico. En Angleterre, ils suivent d'abord la Première Ligue, puis la Championship, puis d'abord la Ligue 1 et la Ligue 2 avant de suivre la Ligue 1 ou les autres championnats européens. T'inquiète pas. Après, bien sûr, ils connaissent le LOL, le club de Lille, hein, et t'inquiète pas, ils prennent comme nous tous l'Eurostar et ils savent très bien que Lille c'est pas très loin de Londres, mais je pense surtout que Julien parlait du fait d'être auto-centré pour les Anglais et leur football.
Bon Abdella, parle-moi du match surtout.
Justement là je vais parler sur la chance de Lille pour la demi-finale. Déjà en fait en gros Lille, soit en gros ce que j'ai vu. Je sais pas si j'imagine, vous avez tous regardé les stats de match aller contre les cinquièmes de Première Ligue. Franchement, Lille, il était supérieur à Aston Villa. Il faut regarder, en fait, en gros, l'expected goal et regarder aussi les tirs cadrés, regarder la possession. Lille, franchement, je dirais pas qu'elle a marché sur Aston Villa, mais elle a fait un très très bon match.
Bien sûr.
Et encore une fois, Lille, il est premier, en fait, en gros, et je pense qu'ils ont perdu deux matchs sur le 40 dernières. À domicile, ça reste quand même en fait en gros très très costaud à domicile. Encore une fois, les stades c'est rare à guichet fermé, c'est rare, sachant que j'ai entendu en fait en gros Daniel Riolo il y a deux semaines, comme quoi il y a pas d'ambiance à Lille, les stades sont vides.
Mais, non, c'est pas vrai ça. Mais,
en fait, il a dit ça en fait en gros, il y a pas une. En fait,
les stades, très grosse ambiance à Lille. Oui.
En fait, honnêtement, sur la phase de poule, les stades étaient quasiment vides. Moi, j'ai fait tous les matchs de Lille et les stades, ils étaient quasiment vides.
D'accord.
Là, il y aura au moins 50 000 personnes.
55 000, on annonce, effectivement. Bon, d'autant plus que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Aston Villa va aussi jouer ce week-end. Lille, non.
Contre Arsenal, si je ne me trompe pas.
Arsenal, ce sera dimanche à 17h30. Voilà, donc.
Je pense qu'ils enchaînent Manchester City, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, je ne connais pas leur calendrier, mais je pense qu'ils font les deux gros matchs d'Aston Villa. C'est et Lille se retrouve au milieu. Et sachant que Aston Villa, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions.
Oui.
Ils poussent en fait en gros pour finir cinquième.
C'est vrai.
Alors voilà. Mais bon, après,
ils vont enchaîner avec Bournemouth. Merci Abdella. Très bonne soirée à toi.
Salut,
tu
m'écoutes
sur RMC. À bientôt dans l'after.
Merci à vous et bon courage les gars.
Salut. Bon courage à toi. Merci d'être venu. Tiens, je vais accueillir. Alors, c'est un appel au 32-16 d'un homme, d'un auditeur, qui ne sort pas d'un match, qui sort d'un théâtre, qui sort de Trianon.
puisqu'il était, il avait acheté des places pour aller voir le spectacle de l'After. Et oui, car Daniel et Gilbert, ce soir, ont fait leur grande première après 18 ans d'After sur scène. Pas en studio, mais sur la scène du théâtre du Trianon. François nous a appelé au 32-16. Salut François.
Oui, bonsoir tout le monde.
Heureux de t'accueillir. Mais toi surtout, alors raconte-nous, est-ce qu'ils ont été bons, alors, les deux?
Alors déjà d'une, là c'est une des plus belles journées de ma vie.
Ah carrément.
Je vais au Trianon, je passe la soirée avec Daniel, Gilbert, Flo était là aussi, Walid était là, Monsieur Luis Fernandez est venu aussi, également.
Ouais, bien sûr.
On a parlé, ils nous ont parlé de France-Brésil 86.
Ouais.
Donc ils ont tout débriefé, ils nous ont fait un petit after bah, comme d'habitude. Les trois points, ça parlait tactique et tout. Non, franchement.
Est-ce qu'il y a eu un gros débat? Est-ce que Daniel s'est énervé? Est-ce qu'il a pété les plombs ou pas?
Non, il a pas pété les plombs. Flo a failli lui dire à un moment donné qu'il était bidon, mais ça s'est relativement très bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Non, franchement, c'était très agréable. C'était une très bonne soirée. Et en plus, c'est la première fois que je passe à l'after. Donc, franchement, là, c'est une de mes belles soirées.
Le bouquet final.
Là, je ne vais pas vous le cacher. Là.
Bon, ouais. Est-ce qu'il y a eu des rappels dans la salle quand le rideau s'est fermé ou pas?
Des rappels? Alors, non, il n'y a pas eu de rappel. Mais en fait, si vous voulez, ce qui était sympa, en fait, c'est qu'ils sont sortis. Ils sont sortis pour discuter un peu avec tout le monde, prendre des photos et tout. Non, franchement, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'espère qu'ils le referont.
Ouais, il y en aura d'autres sûrement.
Voilà, je pense avec un autre match ou ce genre de choses. Mais franchement, c'était vraiment très, très agréable.
Ah mais c'est bien.
Bah, en tout cas, t'as eu de la chance de pouvoir assister à ça. Bah, bon, on était invités, mais on travaillait.
Voilà.
Bon, merci François d'avoir fait le 32-16.
Salut François.
Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Salut.
Et salut à Gilbert et Daniel s'ils nous écoutent en rentrant du
les croisera peut-être. Hein, ils peuvent nous appeler aussi Gilbert et Daniel après leur première sur scène au théâtre. Bravo. Bon, heureusement, c'était pas un texte joué. Hein. Ça aurait été plus compliqué, je pense. Là, ils sont restés dans leur exercice favori, à savoir débriefer un match. En l'occurrence, France-Brésil 86. Voilà. Le gagnant du jeu arrive et est avec nous, justement, pour des places pour Paris 2024. Joseph, bonsoir, mon cher Joseph.
Et bonsoir.
Tu as donc été sélectionné. Tu as envoyé Paris 2024 au 7-32-16. Donc, c'est très simple. Mon cher Joseph, tu fais partie des gagnants des 100 places que nous avons à RMC. Tu vas pouvoir en gagner deux. Mais tu vas devoir choisir entre deux épreuves.
Ouais.
Et ce soir, dans l'After Foot, j'ai devant moi, écoute bien, soit deux places pour assister à la finale femme de handball le 10 août à Lille, soit deux places pour assister à une soirée d'athlétisme au Stade de France, même une journée, demi-finale, finale du 100 mètres dames, finale du triple saut féminin, finale du décathlon messieurs avec Kevin Mayer peut-être pour un sacre olympique. Ce sera au Stade de France bien sûr le 3 août. Tu choisis quelle place, quelle épreuve, le handball, la finale femme ou la soirée athlétisme?
Handball, ça peut être la France.
Handball, tu peux avoir la France, hein?
Ouais.
Ouais. Mais bon.
Le choix n'est pas simple, c'est prestige là. Hein.
Ouais.
Je précise, c'est à Lille, la finale femme de handball. Hein. Comme ça, t'as toutes les données en main. C'est le 10 août. L'athlétisme, c'est le 3 août au Stade de France.
3 août.
Le 3 août, donc, ira voir, notamment la finale du 100 mètres féminin, triple saut également, le décathlon homme, au Stade de France, le 3 août. Mon cher Joseph, bravo à toi. Tu vas te régaler. Les places sont rares, hein. Voilà. Donc, si vous aussi vous voulez pour Paris 2024 deux places, c'est jusqu'à mercredi seulement sur RMC. Vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Voilà les gars, ça vous intéresse les Jeux Olympiques ou pas? Vous avez des places?
Bien sûr. Moi j'ai pas de place, mais si t'en as à m'offrir, je veux bien y aller.
Si tu veux, on va en discuter, mon cher.
On va
d'accord.
Et merci.
Elles s'offrent pas, elles se revendent au prix très très fort, mon cher Kevin.
Moi, je vais les commenter.
Ah bon?
Ouais.
Pour l'équitation?
Oui, aussi.
Mais t'as pas le droit d'annoncer avant la conférence de presse, mon cher Lionel.
Non, ça a déjà été annoncé.
Ah, c'est annoncé. Tu vas faire l'équitation pour RMC?
Non. Ah non. Pour une
comment
télé.
Ça tu nous lâches ça?
Lionel, pour une télé.
On n'oubliera pas ça.
Le foot et l'équitation.
Le foot aussi.
Ah ouais, oh, bien sûr.
Bien, toi. Hein, faire un bon mois d'août, mon cher Lionel. Là.
Ah, je vais me régaler.
Tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Demain soir, l'after sera là, bien sûr, pour les matchs. Hein, match de 17h, Strasbourg-Reims et Rennes-Toulouse. Ce sera d'abord en direct sur RMC. Et bien sûr, le débrief dans l'after avec Lionel. Toi, tu seras là aussi demain soir pour l'after. Mon cher. Non pas toi. C'est Kevin.
Et je vais vous écouter.
Et Roland. Demain et Roland. Soir. Voilà, rendez-vous demain soir pour l'after, les amis. Et n'oubliez pas la journée de Ligue 2 aussi, la 32e, qui approche de son terme, et alors que le Red Star, à ce que je vois également, se rapproche de la montée en Ligue 2. Voilà, le club de Walid Acharchour qu'on embrasse. Bonne soirée à tous sur RMC. Merci Lionel, merci Kylian.
Ciao à tous.
Bye bye.
RMC, l'after foot.